Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous nous arrêtons donc là, c'est la fin du dixième chapitre. Ce dixième chapitre, bien entendu, nous allons entrer dans l'interprétation assez profond, et dans ces enseignements, chacun peut trouver sa place. Au fait, c'est l'objectif réel est que par rapport à ce que nous allons entendre, nous puissions nous examiner, puisqu'il est, c'est un message complémentaire sur l'appel que nous avons reçu de notre Seigneur. Nous allons maintenant nous retrouver sur notre propre conduite, sur notre interprétation et sur l'application que nous sommes en train de faire à ce moment-ci, si cela est vraiment conforme à ce que le Seigneur nous avait dit. Le message commence avant tout dans 10, faisant mention de ce qui a été, c'est-à-dire, il y a d'autre part les enseignements de Moïse. Les enseignements de Moïse, depuis le temps du commencement du peuple d'Israël, quand Moïse va décider afin de libérer ce peuple, ils vont entrer dans le désert, il va donner des lois, et nous avons lu beaucoup sur leur mission dans le désert. Au fait, si on pouvait abréger cela, le Seigneur les a conduits là en observation pour voir si ce peuple pouvait suivre, observer et mettre en pratique sa parole. C'était au fait cela parce qu'il a dit, nous venions de lire ça dernièrement dans le livre des Deutéronomes, je vous ai fait conduire dans le désert pour voir quelles seraient vos dispositions face à toutes les recommandations que je vous ai prescrites. Garderiez-vous cette parole ou ne garderiez-vous pas? Nous connaissons en effet le résultat, c'est que de tout ce qui était dans le désert, 400 000 personnes de la descendance des enfants de Jacob, au fait, il y a eu deux personnes qui ont eu accès maintenant à la terre promise, plus deux personnes des Anciens et plus la nouvelle génération, puisqu'il y a eu une deuxième circoncision. Une deuxième traversée, maintenant, cette fois-ci, le fleuve Jourdain pour entrer dans la terre promise, la première ville, Jéricho. Donc, quand ils vont entrer là, ici, cet enseignement fait allusion à deux cultes, deux alliances, deux pratiques. Quand je dis deux cultes, la méthode de rendre grâce, louer Dieu, satisfaire Dieu, répondre à l'appel de Dieu, il y en a deux. Il y a l'ancien et un nouveau. Voilà pourquoi dans ce texte, l'apôtre va commencer directement pour parler de cela, son vœu envers les Juifs, puisque maintenant il se trouvait devant les Juifs, les ayant droit, si vous voulez, c'est à qui la parole a été destinée et que la manière dont ils ont interprété la parole, elle n'était pas bonne parce qu'ils s'attachaient plus aux enseignements de Moïse et alors que Christ est venu pour introduire la nouvelle alliance qui est tout différente. L'ancienne alliance, c'est être sauvé par les œuvres, tandis que la nouvelle alliance, être sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui fait donc cette différence. Nous allons lire ici, commençons à paix, on va aller lire tout doucement, pas à pas, comme le Seigneur le permettra. Nous allons lire cela. Il commence par dire, je sais que la version que notre sœur a lue est une autre, j'ai la version Louis II. Frère, le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur, il y a quelques bruits, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux qui, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Il s'exprime donc qu'il aurait voulu bien que les Juifs soient sauvés, c'est vrai, il aurait souhaité cela. Se lever de son cœur. Mais hélas, il y a une déception quelque part, c'est pourquoi il commence par dire là, oui, c'est vrai, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, ils ont le courage, ils se réveillent très tôt, ils viennent à l'église, dans les synagogues, ils font tout cela, mais sans intelligence, sans intelligence. Donc, l'intelligence n'était pas donc les études des Écritures, l'intelligence ne signifie pas être le pharisien, d'ailleurs, eux, ils observaient les Écritures. L'intelligence n'était pas le type d'intelligence sadducéen qui, eux, gardaient les Écritures, écrivaient les Écritures. Ce n'était pas cela. Si ce n'était que ça, d'après la Nouvelle Alliance, c'est une perdition. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était bon. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu disqualifie cette méthode. Car maintenant, bien qu'ils ont été pleins de zèle, pleins de courage pour faire exactement ce que Moïse recommandait, ici l'apôtre dit, ils cherchent à connaître et à obtenir la justice de Dieu. Et cependant, ils ne l'ont pas retrouvé, ils n'ont pas trouvé cette justice. Ils ne sont pas entrés dans la grâce de Dieu. Pourquoi? C'est parce que ils s'efforcent à entrer dans la justice de Dieu par leurs propres œuvres. Et pour dire cela, c'est des personnes qui ont reçu la loi de Dieu, dont chacun a bien énuméré ça, bien noté ça, toutes les lois, et il s'est dit, je vais obéir, je vais mettre cela en pratique. Donc, le fait de dire cela, quelque part, nous allons en contradiction avec la parole de Dieu, car ce même livre de Romains, au chapitre 3, Dieu, déjà, avait déclaré que dans le monde, ici, tout entier, à partir d'Adam et la descendance d'Adam, tout homme, les descendants d'Adam, dont font partie Noé, Abraham, pour ne citer que ces grandes personnalités de l'Évangile, de la parole de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et tout cela, le Seigneur, notre Dieu, a déclaré qu'il n'a pas trouvé un seul qui soit juste. On n'a pas trouvé un seul qui soit capable d'obéir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et justement, c'est s'il le dit, parce qu'il y avait ces gens-là qui ont tout fait pour mettre en pratique, mais hélas, nous comprendrons ça plus tard, que voulant obéir, en voulant mettre en pratique, en voulant être, trouver la justice de Dieu par la preuve des œuvres, ils sont plutôt devenus devant Dieu des hypocrites, des coupables. Donc, ils s'en profondissaient dans le péché plutôt qu'à trouver la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul était dans une grande difficulté pour parler à ces gens qui étaient enracinés aux enseignements de Moïse, qui chacun voulait obéir à sa manière. Et cette méthode, d'ailleurs, provoquait la jalousie, car c'était la concurrence les uns les autres. Moi, j'obéis plus. Moi, j'ai donné plus de ceci. Moi, j'ai pris plus que toi. Ça a provoqué. Alors que dans la parole de Dieu, quand nous qui sommes venus et qui serons sauvés, qui sommes sauvés, qui seront sauvés devant Dieu, obtenant la justice de Dieu, non pas par les œuvres, mais par la grâce. La grâce, c'est-à-dire Dieu nous accepte déjà. Mais avant que nous parlions que Dieu nous accepte déjà, c'est-à-dire ceci, nous avons en Jésus-Christ éliminé l'incrédulité. Si le peuple juif était considéré comme n'ayant pas l'intelligence, mais ayant beaucoup de zèle pour venir vers Dieu, mais sans intelligence, parce qu'il y avait quelque chose dans le peuple Israël, le peuple d'Adam, le culte, le premier culte, qui les empêchait, et ce n'était pas possible d'avancer vers Dieu, et c'était justement le péché, le tout premier péché qui s'appelle l'éloignement, être séparé de Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. En ayant ce péché en toi, tu es séparé de Dieu. Donc, privé de révélation. Car pour connaître la révélation de la parole, il te faut le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il te faut accepter Dieu par la grâce, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour cela, il fallait d'abord que Jésus-Christ lui-même soit immolé comme sacrifice pour éliminer ses péchés. Jésus était déjà dans le monde, il a vécu jusqu'à ses 30 ans en tant que juif, dans la coutume juive. Et là, les Nouveaux Testaments n'étaient pas encore entrés en rigueur. Jésus a vécu une partie de sa vie, une grande partie de sa vie terrestre sous la loi de Moïse, et ensuite à sa résurrection que va entrer le nouveau culte. Et pourquoi cela? Parce que les sacrifices de chaque alliance devaient se faire quand il y a le sacrifice, et alors aussi le sang va couler et l'alliance commence. Mais avant, c'était le sang des animaux qui se répétait à tout moment. Mais pour nous sortir de ces péchés d'Adam, il ne fallait pas que ce soit le sang d'un animal. Mais il ne fallait pas non plus que ce soit le sang d'un pécheur. Il fallait en trouver un qui n'a jamais péché et qui soit aussi de la race humaine. Nous comprenons quelquefois on appelle Jésus fils de l'homme et fils de Dieu. Ça nous dit beaucoup là. Donc, pour dire que Jésus était le seul pour pouvoir venir payer le prix pour ses semblables que nous sommes l'image de Dieu. Car lui-même, il est l'image visible de Dieu invisible. Et nous, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est notre proche parent l'ayant droit à tout ce qui nous concerne devant Dieu. Un ange ne pouvait pas nous sauver. Un ange ne pouvait pas mourir à notre place, car il n'avait pas de droits, les droits d'héritage. Ça existe. Dieu a établi les droits d'héritage sur le proche parent. Au ciel, c'est nous, notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes proches de Jésus-Christ, donc il avait ses droits. Étant donné qu'il n'était pas encore immolé, ou il n'était pas passé par le sacrifice, par sa mort, le péché originel subsistait. Et alors, les hommes pouvaient tout faire. On pouvait aimer Dieu, on pouvait faire tous les efforts, mais sans toutefois accomplir ou atteindre la justice que Dieu voulait que nous atteignions. C'est pourquoi il était indispensable que Dieu introduise un nouveau culte. Et ce nouveau culte est très différent de l'autre. La première, c'est effort propre, alors tu peux obtenir la justice. Tandis que Dieu déclare en même temps, aucun de vous n'est capable. Donc, de ce côté-là, bien qu'il y a le chemin, mais ce chemin, personne n'y parviendra. Il introduit un deuxième culte. Cette fois ici, oui, c'est par la foi. Faisant confiance à la mort et à la résurrection de Christ, faisant confiance au Saint-Esprit, nous entrons dans la justice de Dieu. Mais entrer dans la justice de Dieu, avant même qu'il soit question que tu obéisses à toutes les lois au cours de ta vie, non. Le Seigneur t'appelle juste, le Seigneur te considère juste, parce qu'il fait confiance, non pas à toi, mais à l'Esprit de Dieu qui est en toi, il fait confiance que tu réussiras malgré toi, il te réussira. Donc, celui qui vient vers Christ, c'est un engagé, c'est quelqu'un qui fait un pacte avec le Christ pour dire, je reste avec toi. Et le Seigneur a juré pour cela, il a juré que quiconque qui confessera le nom de Jésus-Christ ne sera jamais dans la confusion. Donc, cette parole que Dieu a jurée par lui-même fait que nous soyons appelés de saints avant même qu'il soit question qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal. Mais notre garantie est que ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à moi qui me fera faire tout ce qu'il faut faire et qui me fera éviter tout ce qu'il ne faut pas faire. Nous faisons donc confiance à Dieu. Et cette confiance s'appelle la foi. D'autre part, il y a la grâce, un don inmérité de Dieu qui nous tend cette grâce, cette bénédiction. Et nous, par la foi, nous tendons aussi la main pour saisir la main de Dieu. La grâce et la foi se joignent ensemble et le miracle se produit. Telle est la situation de la nouvelle alliance. Et ici, l'apôtre Paul se trouve devant les Juifs et il va leur parler de cette nouvelle alliance qu'ils ont du mal à comprendre. D'ailleurs, à un certain moment, on a cherché à les lapider parce qu'ils se disaient « mais il n'est pas de Dieu parce qu'il est contre Moïse ». Eux prêchaient Moïse, les Juifs. Mais l'apôtre Paul, avant, il était comme eux. C'était aussi un pharisien, même un peu trop. Parce qu'il s'est désigné volontaire pour aller arrêter les chrétiens. Donc, ne sachant pas qui était Christ, ne connaissant pas le lien entre Christ et Elohim, il ne connaissait pas tout cela. Alors, il s'est porté volontaire pour arrêter les chrétiens. Mais quand, sur le chemin de Damas, il va découvrir que Jésus, qui persécutait, et Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ce qu'il, lui, il adorait, ne faisait qu'un. Alors, quand il a compris cela, il s'est repenti. Il a eu le baptême. Et même, il est devenu aveugle de nature, car il était aveuglé spirituellement, et cela a contaminé aussi sa chair. Mais quand il fut baptisé, ces écailles qui empêchaient que ceux qui comprennent la parole de Dieu dans sa profondeur sont tombées. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup qui viennent devant le Seigneur, mais avec les écailles dans les yeux. Ça veut dire, vous lisez la parole et il y a l'interprétation tout à fait du monde. Quand Jésus dit pain, tu vois le pain. Quand Jésus dit le vin, il voit absolument le vin. Mais il ne peut pas comprendre que le pain, c'est la chair de Jésus-Christ et le vin était le sang de Jésus-Christ. Que quelque temps après que Jésus a dit « Buvez-en tous et mangez ceci et mon corps », Jésus va rendre grâce à Dieu sur la croix. Et à ce moment-là, celui qui ne peut pas comprendre le vrai pain que Jésus a dit, « Je suis le pain de vie », ce pain-là va se trouver dans le corps de Christ, ce qui signifie la nourriture pour notre corps spirituel. Il va se trouver sur la croix, là, il va s'élever et le sacrifice va être accompli, le sang va couler à la place du vin. Quand ils se sont réunis dans la haute chambre, là, le vin était le symbole du sang. Mais sur la croix, le sang était le symbole du vin qui s'est passé là-bas. Et son propre corps fut le symbole du pain qu'ils avaient mangé. Qui peut comprendre cela? Qui peut saisir cela? Nous comprenons que maintenant Dieu a enlevé les paraboles, il a enlevé les doutes, il a enlevé les énigmes et les paroles cachées pour nous révéler. Faisons donc la différence entre la parole logos que Moïse a apportée et aussi la parole rhéma qui vient par la suite par le Saint-Esprit. Nous, nous sommes de cela. Nous sommes de cette saison-là. Maintenant, il nous explique, mais comme l'Israël et l'ancien culte et tout ce qui se livre aux études, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu à cause de cela. Et c'est vrai. Parce que d'autres pensent que, voilà, c'est se mettre sur le banc pendant 7 ans, 6 ans, et alors avoir tout l'enseignement et tout, et voilà, ça y est. Non, ce n'est pas jamais le mérite, ce n'est pas comme un salaire que nous allons être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on a fait ceci ou cela, parce que c'est à cause de cela que tu vas atteindre la justice. C'est parce que tu as fait confiance à la personne de Christ d'abord, comme l'envoyé de Dieu, comme l'agneau de Dieu, qui va être immolé pour faire confiance à sa résurrection et faire confiance de l'assistance du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, nous allons nous trouver dans l'application de la parole de Dieu, là où même tu avais échoué, là où tu avais dit que c'est impossible, là où tu disais « je ne sais pas comment faire » parce que nous étions amenés dans certaines églises à confesser tout le week-end, en jurant devant Dieu, plus jamais je ne pécherai, plus jamais. Et voilà, quelques temps, peut-être quelques minutes après, on te retrouve dans le même péché. Tu es encore là. Et oui, parce que nous ne comprenons pas. C'est là où l'apôtre va souligner, sans intelligence. Mais le problème n'est pas là. Personne ne peut passer là. Il n'y a pas de passage. La justice de Dieu, on l'obtient par la foi à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il met ici en écrit pour notre connaissance. Donc, déjà, il dit au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Mais là aussi, il peut y avoir une confusion. N'interprétons pas cela que Christ annule la loi. La loi est toujours là. Elle ne sera jamais annulée. Car Jésus a dit aussi, « Pas un seul iota de la loi ne sera ôté. » La loi est là. Tout ce que nous avons vu dans la loi, les 10 commandements, et pas seulement les 10 commandements, toutes les lois qui ont été inscrites, toutes, qui, quand on regarde la Bible, ça va un grand nombre de 613 lois. Et encore, là, ce sont des lois écrites. Mais il y a aussi d'autres lois non écrites, les lois écrites dans notre conscience. C'est que quand nous faisons quelque chose, ou nous disons quelques paroles, ou nous amenons notre passé d'une façon qui ne convient pas, nous péchons. Mais quand on regarde dans les Écritures, il n'y a pas. Mais ta conscience t'apaise et te fait voir que ça, ce n'est pas bon. C'est déjà ça un péché. Comment ferions-nous pour obéir à tout cela, tous ces grands nombres de lois? Nous savons que c'est vraiment impossible. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous disons que c'est possible. Non pas parce que la loi est annulée, parce que Christ nous a apporté la méthode de nous conformer, d'obéir à cette loi. Et quelle est cette méthode? Le secret, c'est, ce ne sera plus par toi-même, mais ça sera par le Saint-Esprit. Ce verset que nous lisons ici, c'est pour dire que celui qui a accepté Christ, il est au-dessus maintenant de cette loi, car la loi est appliquée, la loi est suivie et mise en pratique par le Saint-Esprit qui est à nous, comme si c'était nous. C'est pourquoi l'apôtre avait ajouté quelque part, je me vois que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand il dit cela, c'est parce qu'il a constaté. Je prends un exemple. Il était plein de colère et jamais il n'a réussi à maîtriser la colère. Quoi qu'on dise, quoi qu'il agirait, plus jamais, mais il revenait tout le temps là. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, la colère a perdu tout son pouvoir. Il est libéré de sa colère, de sa jalousie, de son péché, de, par exemple, de la fornication, de l'impudicité, de mensonges qui autrefois étaient plus forts. Souvenez-vous que dans les temps passés, même les sacrificateurs devaient chaque fois donner des sacrifices à cause des souvenirs de péché et la répétition de péché qui ne s'arrêtait jamais. Et c'était ça. Mais en Jésus-Christ, l'homme change, le caractère change, la vie change et une vie nouvelle commence à toi. Et ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as le courage. Non, ça n'a absolument rien. Si ce n'était que ça, nous tous, nous avons échoué. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans lequel personne ne peut se glorifier. Faire confiance, accepter Jésus et faire confiance en Jésus, faire confiance au Saint-Esprit, accepter le Père comme l'envoyé de Jésus-Christ. Et quand nous voyons toutes ces choses, on se dit, voilà, je suis sauvé. En ce moment, je n'ai plus peur de la loi. Car quant à la loi, encore une fois, la loi n'a le pouvoir que sur ceux qui vivent. Quand quelqu'un est mort, la loi perd son pouvoir. Mais nous, la loi aurait agi en nous aussi si nous n'étions pas morts. Mais est-ce que nous sommes morts? Bien sûr, mais pas physiquement. Mais nous sommes morts par la foi avec Jésus-Christ de manière à ce que la loi de Dieu a perdu son pouvoir, car quant à la loi, nous sommes morts. Quand selon le monde, nous sommes morts, nous, avec nos pensées qui étaient déjà dites, l'homme d'hier qu'on était, le pécheur d'hier qu'on était, nous avons été engloutis dans les eaux de baptême. Et en sortant de là, c'est une nouvelle création, insoumise au monde, mais soumise à Dieu. Nous sommes maintenant considérés non pas comme des instruments de l'injustice contre Dieu, mais plutôt des instruments de justice, afin que notre Dieu soit glorifié. Nous sommes passés de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort à la vie. Ainsi, le christianisme, bien aimé quelque part, c'est une école de mourir avant de mourir, de vivre dans une nouveauté de vie, comme si on était vraiment mort, mais mort en Jésus-Christ. C'est à cause de cela que nous disons oui, car Christ est donc la fin de la loi pour la justification de tout ce qui est donné. Moïse, regarde, d'après Moïse, l'homme vivra par elle. Ça veut dire celui qui choisit le chemin de l'application de l'obéissance propre et fort, tu vivras. Tu seras justifié au travers d'elle. Quitte à toi de prouver devant Dieu que tu as été obéissant, observateur, un suiveur, de A jusqu'au bout. Et même que, chose est beaucoup plus grave, car Jacques va nous dire, toutes les lois de Dieu sont unies d'entre elles. Quelqu'un peut dire, il y a 100 lois, mais j'ai obéi à 99 lois. Donc, la seule loi, j'ai été faible, c'est celle-là, alors, pardon, je vais être sauvé. Non, tu ne passeras pas. Parce que toutes les lois ne font qu'une. Pécher contre une loi ou sans, c'est la même chose. Quand tu pèches, tu es transgresseur de la loi. C'est comme en prison. On ne choisit pas qui est qui. Dès que tu as faim quelque chose qui ne convient pas, nous, tous ces pécheurs, tous ceux qui n'ont pas suivi la loi, se retrouvent dans la même prison et ils sont appelés prisonniers. On n'entre pas dans les détails. Regardez la même chose, comprenons, parce que si nous savons comment ces choses se passent dans le monde, nous pouvons aussi comprendre ce qui se passe devant nous. Donc, pour Moïse, c'est que, voilà, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, débrouillez-vous. Et même Moïse n'a pas pu lui-même, malgré qu'il était à la tête, malgré qu'il y avait des sacrificateurs, Aaron, etc. Et ça, personne n'a pu. Mais voici la parole qui vient de la foi, celle que nous ne dis pas à ton père du ciel, c'est un frère descendant. Cela veut dire ne doute pas pour te poser des questions qui entrera dans le ciel. Alors vous doutez de la grâce. Et là aussi, vous doutez de la grâce. C'est un peu comme Christ n'est pas ressuscité pour toi et qu'il était enterré et son corps se trouverait encore dans la terre. Comme Mahomet, comme tous les autres, c'est de le faire descendre de nouveau. Donc, tu ne crois pas non plus à sa résurrection. Mais si Christ est ressuscité, c'est la preuve et le cachet sur la parole de la foi qu'il nous avait donnée. La preuve, Jésus est vivant, donc il n'est pas mort. Et s'il n'est pas mort, toutes les paroles qu'il nous a données sont vives. Donc, on s'est posé qui en est là. Non, ne te pose pas, ne doute pas. Car nous entrons à la fois en Jésus. Et même, ne dis pas qu'il descend, c'est de faire remonter d'entre les morts. Alors, si tu te dis, oui, qui va entrer dans les abîmes, qui va aller en enfer, ne le dis pas non plus. Parce que si tu le dis à ce moment, oui, c'est remonter de nouveau entre les morts, ce qui reviendrait au même, donc ce n'était qu'un homme finalement. Il ne se passe rien après sa mort. Non, Jésus est maintenant résisté. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Quelle est la parole à retenir? Quel est l'enseignement à retenir face à tout cela? D'autre part, il y a la loi, toute la liste de la loi, et à d'autre part, la foi qui vient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu nous dit avec toute sagesse, la parole est près de toi, mon fils. La parole est près de toi, mon fils. C'est la parole que tu attends à ce moment. C'est cette partie que tu fais comme la parole est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si nous suivons, nous trouverons le même texte dans le livre des Deutéronomes. Il dit que le salut, ce n'est pas loin. Je n'ai pas mis ça de l'autre côté du fleuve comme pour dire je dois quitter l'Égypte pour passer de l'autre côté de la mer. Je n'ai pas mis ça dans l'autre continent pour que tu cherches l'argent pour payer le billet pour aller là-bas. Je n'ai pas mis ça même à 1 kilomètre de ta maison pour dire que mon église est loin. Aujourd'hui, il y a la neige, je ne peux pas m'y rendre, etc. Non, la parole plutôt les salis est près de toi. Où ça? Près de toi. Mais où? Dans ton cœur. Dans ton cœur, là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Bien-aimés, nous avons passé un moment difficile de pandémie ici avec le COVID-19. Oui, vous voyez, beaucoup de ce qu'ils appellent les églises ont fermé. Mais ce que je ne comprends pas, beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de l'église de Jésus-Christ. Il avait dit à Pierre, je veux bâtir mon église et les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais devant elle. C'est-à-dire, personne ne fermera cette église. Et alors, nous, on voit les églises, les portes fermées, on a fermé l'église. Beaucoup, ils ont dit ça. Non, l'église de Christ n'a jamais été fermée, pas une seconde, car ce n'est pas cette église-là, mais c'est l'église que toi-même tu es dans ton cœur. Ici, la parole de Dieu, oui, oui, tu dis donc la parole est de toi. Tu n'as pas un billet à payer. On ne te demande même pas d'enlever tes chaussures. On ne demande même pas de quitter les salons pour aller à la cuisine. Mais dans ton cœur, là, c'est là, comme le Seigneur le dit, c'est vrai, dans ton cœur, ta bouche, c'est dans ton cœur, oh, c'est là.
parole que vous attendez. Laquelle? Mais celle-là même. Celle-là même, il n'y a pas une autre. Ce que tu attends maintenant, admettons que tu n'as jamais entendu ça. Admettons que tu as entendu de loin et qu'aujourd'hui tu attends cette interprétation et que tu te dises dans ton cœur, je crois que c'est ça que j'ai trouvé. Cela suffit. Alors, si tu crois dans ton cœur, comme la parole de vrai, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, c'est vrai, il est l'envoyé de Dieu, le secours de nos problèmes, il est venu, il a payé le prix de notre esclavagisme au péché, il a payé par sa vie, lui qui est saint, sans tâche pour nous pécheurs, et qu'il a pris notre place, et Dieu a fait de lui malédiction, parce que nous on était malédiction, il a mené toutes ces malédictions, toutes ces condamnations, toutes ces conséquences du péché, il l'a mené sur la croix, pour être crucifié et en échange, il nous a donné la liberté, la vie éternelle. Il nous a donné à nous qui faisons confiance à cette parole, pas à tous. Il y a beaucoup d'appelés, très peu de lits. Mais la différence maintenant de la manière dont tu reçois cette parole, qu'est-ce que tu dis de cette parole et surtout qu'est-ce que tu dis de Jésus-Christ? Pierre avait dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, et moi je t'ai dit, toi qui es Pierre, et sur ça, je veux bâtir mon église. Il ne parlait pas de Pierre en tant que fils de Jonas, non, mais il a parlé à Pierre pour dire que cette parole qui sort de toi n'est pas de toi Pierre, mais c'est l'esprit de mon Père qui est à toi qui fait dire cela. Et sur cette parole, moi, je bâtirai mon église. C'est cette parole quand le Seigneur nous dit, tu as tout dans le cœur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons doit d'abord venir du cœur, sortir par la bouche par ensuite. Et si nous lisons, il nous dit ça clairement, oui, la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si, si, parce que tu es libre, on ne te force pas. Si, si jamais, si, écoute bien, si. Si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire répéter encore plus que tu attends, mais je répète maintenant dans ma bouche. Je l'ai entendu de la bouche du pasteur. Le pasteur est animé par l'Esprit de Dieu et le prédicateur était conduit par le Saint-Esprit. Il a parlé et moi, je répète. Donc, j'ai confessé. Si tu confesses Jésus-Christ, le fait de prononcer Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes d'être son serviteur. Tu le vois comme patron et que toi, tu es engagé en lui. Le fait de l'appeler seulement Seigneur, vous m'appelez Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Voilà la signification. Le fait de dire Seigneur Jésus, tu acceptes ta seigneurie, ton autorité, c'est la preuve de la soumission que tu as. Et si toi, dans ton cœur, tu seras sauvé. Voilà, c'est croire, c'est des choses. L'accepter comme Seigneur, donc ton maître, j'ai accepté, et tu es d'accord que Dieu l'a ressuscité de mort. C'est que les paroles que nous attendons ne viennent pas d'une parole d'un mort, mais c'est une parole vivante. Jésus vit. Et si tu acceptes sa résurrection, tu acceptes toute la parole de Dieu comme étant une parole qui apporte la vie, qui n'est pas seulement une parole qu'on attend comme dans l'audition. Mais elle apporte dans nos veines spirituelles une vie, ça change, ça transforme. Cette parole, c'est l'instrument de l'usine de Dieu. Quand on te fabrique, on te façonne, on traite ton caractère, Dieu s'occupe de ça. Plus jamais tu seras ce que tu es. Et voilà le raccourci, comment nous avons obtenu ce que les Juifs n'ont pas dit, ils n'avaient pas l'intelligence pour ne pas passer. Ces passages de la justification, car c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Le fait de croire, tu es justifié. Je dis que tu es justifié déjà, pour demain tu es justifié, jusqu'à la fin tu es justifié, parce que celui qui est avec toi ne t'abandonnera pas, il est fidèle. Il a dit, quand vous ne serez pas fidèle, moi, je reste fidèle. Et de quelle fidélité? Il te gardera. Il te gardera. Mais attention, il y a beaucoup d'enseignements que nous devons ajuster là-dessus. Ne provoque pas la colère de Dieu. Ne veux pas dire, bon, j'ai accepté Christ, donc je peux faire tout ce que je veux. Non, si tu es fait, c'est vrai. Dieu ne t'abandonnera pas. Mais attends-toi qu'il va te reprendre. Il va te reprendre certainement. Parce que maintenant, tu incites la jalousie de Dieu. Tu le fais insulter. Tu portes son nom. On te dit chrétien. Et en même temps, tu vas vers le diable. Fais attention, il peut accourter tes jours. Appeler avant le temps, non pas pour te perdre, mais pour dire il ne veut pas prendre des risques avec toi. C'est mieux que tu montes chez lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent trop jeunes. On ne sait pas pourquoi, mais oui, parce que le Seigneur ne le permettra pas. Tu es de lui, tu portes son nom et en même temps, tu vas chez le diable. Non, pas cela. À moins que tu n'ailles un peu plus loin comme Judas l'a fait jusqu'à trahir le Saint-Esprit. Ça, n'en parlons pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais nous savons que tout en étant fidèle à la parole de Dieu, nous avons la vie comme elle dit, car nous faisons des choses comme bien au salut, selon qu'on dit l'Écriture. Il y a croire, être pardonné, parvenir par la bouche, les témoignages par la bouche. C'est alors là qu'un jour, pourquoi lui confie. Voilà une parole certaine. Je me demande si nous pesons cela. Je me demande. Parce que là-dessus, ce n'est plus la mécanique, ce n'est plus l'effort propre, mais là, c'est maintenant la grâce que nous recevons de la part de notre Dieu. Donc, il n'y a maintenant aucune différence entre juifs et grecs. Dans la Nouvelle Alliance, on ne te pose pas la question, est-ce que tu appartiens aux 12 tribus d'Israël? Parce qu'avant de participer au Christ, tu devais appartenir parmi les descendants des 12 enfants de Jacob. Mais là, ce n'est plus le cas. La porte est ouverte. La parole de Dieu est universelle. Ce n'est plus seulement pour les Juifs, mais c'est pour toutes les nations. Donc, il n'y aura plus de différence, que ce soit Juif, que ce soit les Grecs, Français, Allemands ou Américains. Tout ce que vous venez, tout cela, ça n'a aucune différence, car les séries aujourd'hui à quiconque qui évoque Christ, Dieu ne voit pas qui tu es derrière, mais au nom de Jésus-Christ, tel que tu es accepté comme un juste. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci mes bien-aimés pour avoir suivi cette première partie du livre des Romains au chapitre 10. Nous avons fini jusqu'au verset 13. Bien que nous ayons tout fait, la prochaine fois, nous prendrons donc la partie de 14 jusqu'à la fin du chapitre. Et je bénis Dieu de ce que vous avez entendu, comme j'avais dit dès le commencement, en écoutant, cherchez à vous chercher, à vous trouver dans ta foi, dans la pratique, de la manière dont tu suis la parole de Dieu, de la manière dont tu l'interprètes. Face à ce que nous venons d'entendre maintenant, où es-tu? Et si c'est là, vous voyez que le Seigneur nous a allégé la tâche. On ne t'oblige plus à toi, par tes propres efforts, à faire de fausses promesses. Je ferai, je ne ferai pas, je ferai, je ne ferai pas, et jamais sans toutefois y parvenir. Mais maintenant, nous croyons que nous avons réussi parce que celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc, en résumé, c'est un peu cela. Et je sais que le Seigneur nous fait grâce, je sais aussi que vous comprenez. Le Seigneur va nous guider. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais demander donc, oui, s'il y a eu des questions sur tout ce que nous venons d'entendre, notez ça quelque part quand nous aurons à nous rencontrer, donc le mardi, comme d'accoutumé, le mardi. Et alors, nous pouvons parler de ce que vous n'avez pas compris. Peut-être que ça nécessite une explication supplémentaire. Eh bien, nous le ferons. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vais demander donc que nous fassions une prière pour clôturer tout cela. Je demande donc à ma sœur Yolande de nous clôturer la prière. Et nous tous prenons des dispositions pour faire en même temps cette prière. À remercier à Dieu pour ce que nous venons d'entendre. Au nom de Jésus.